C'est en fait quelques chiourim, peut-être le temps d'en faire un ou deux, du paradis Yitzhak sur Shavuot. Dans le passouk concernant le Mamad Har Sinai, le moment Sinai, le passouk dit Rak Ishamer Lecha, Ushmor Nafshecha Meod, garde-toi et fais très attention, Pentishkach, de peur que tu oublies, et Tadvarim Asher Raou Enecha, les choses que tes yeux ont vues, Uven Yasur Milvavcha, et de peur que ces choses s'oublient, enfin sortent de ton cœur durant toute ta vie. Mais surtout, donc, fais très attention de ne pas les oublier. Et tu les communiqueras à tes enfants, à tes petits-enfants. Tu communiqueras Yom Asher Amata, le jour où tu t'es tenu devant Ifne Hashem Elokecha, Hashem ton Dieu, Bechorev au Sinaï. Donc il y a une mitzvah de se souvenir du moment Sinaï, en fait. S'en souvenir et le transmettre aux générations à venir. Alors, Shitat HaRamban, l'opinion du Ramban à ce sujet-là, c'est que ce verset qui dit Ishamer, Ishamer, ça veut dire garde-toi, Beshamrut, garde-toi. Ramban dit que c'est équivalent à un lotassé. Et du coup, il compte cet interdit d'oublier parmi les 365 interdits dans la liste des mitzvot négatives, donc les interdits, il compte ici bien que le mot lotaaseh, enfin lo, ne figure pas. Mais c'est marqué isaé, enfin, faites très attention. Et cette mise en garde-là, elle, pour le Ramban, elle vaut autant qu'un lotaaseh ne fait pas. Au point qu'il va le compter dans les mitzvot. Évidemment, il y a d'autres grands maîtres qui ne sont pas d'accord avec lui et qui ne le comptent pas dans les 613 mitzvot. Parce qu'ils pensent que Pen Tishkach ou Pen Yasur, le fait que de crainte que tu oublies et de crainte que ça glisse, ça s'en aille de ton cœur, en fait. Et mazara al klaliut à Torah. Que, en fait, ça concerne l'ensemble des mitzvot de la Torah, l'ensemble de toute la Torah. N'oublie pas la Torah, ça veut dire. Et on compte jamais dans les mitzvot les choses qui sont trop générales. Les phrases qui concernent la généralité, c'est pas une mitzvah, c'est obligatoirement quelque chose de précis, donc de pointu, si vous voulez. Et quand on parle trop large, alors c'est pas compté dans les mitzvot. Ça veut dire, il faut faire attention, mais ça n'est pas en tout cas un des 365 lavis. Ils vont jusqu'à dire que le verset qui dit faut pas oublier, etc., parle pas spécifiquement de Mamad Har Sinaï. Le Ramban, qui met ça dans le compte des mitzvot, il pose une question sur lui-même, d'ailleurs, il s'interroge, et il dit, il y a une Gemara, dans ma Maseret Kiddushin, qui dit, Kol hamlamedet ben beno Torah, tout celui qui enseigne à son petit-fils la Torah, ma'ale alav ha-katuv keilu kibla me Har Sinai. Le Passouk considère que c'est comme s'il l'avait reçu, Il lui a enseigné la Torah du Sinaï, parce que c'est marqué, le passage qu'on a lu, Ve'odatam le banecha belivne banecha, c'est marqué, tu le feras connaître, ce mamad ar Sinaï, ce moment Sinaï, et c'est juxtaposé, il y a Yom asher amadta lifnei Hashem Elokecha b'Horev. Juste après, c'est marqué le jour où tu t'es tenu devant Hashem ton Dieu au Sinaï. Mashma, on entend ici donc de cette juxtaposition que le verset parle effectivement sur toute la Torah. Et donc, le Ramban se dit, alors pourquoi est-ce que je le compte en fait? Il s'interroge, pourquoi est-ce que je le compte quand même dans les mitzvot? Alors il dit, c'est vrai, mais quand on dit, Melamed et Ben Beno Torah, celui qui enseigne la Torah à son petit-fils, Akavanaï Behemet, le Divrei Torah, Shayachim, le Mamad Ar Sinaï, ça porte vraiment sur les paroles de Torah qui ont à voir avec le moment Sinaï. Alors, Rav Yitzhak Hübner, l'auteur du Bachar Yitzhak, il dit, Vetemahi à la Ramban, Shevi Misugia de Kiddushin. Il y a lieu de s'étonner sur le Ramban qui a ramené le texte de la Maseret Kiddushin. Pourquoi il n'a pas apporté un texte explicite, bien plus explicite, qui est dans Maseret Avot, dans les Pirkei Avot? En Pirkei Avot, il est dit explicitement, Kol ha-shocheach davar echad mi-mishnato, tout celui qui oublie quelque chose de son enseignement, le verset dit que c'est à peu près comme si il méritait la mort. Shenema, à cause de Pirkei Avot amène notre verset, Ishamer lecha, ushmor nafshecha me'od, pe'tishkaf, ta asher, ra'u enecha. Il ramène notre verset dans Pirkei Avot. Et la Gemara, là-bas, la Gemara, elle dit, Yachol afilu takfa alav mishnato, Talmud lomar, pen yasur mil levavcha, kol yemei chayecha, ha'ino mitchayev ben nafsho ad she yeshev v'yasir milibo. La Gemara, elle dit, est-ce que si quelqu'un est malade ou s'il arrive un accident qui nous fait oublier, est-ce que vraiment c'est tellement grave que c'est comme s'il méritait la mort. Et non, on parle de celui qui fait ce qu'il faut pour l'oublier. Il veut oublier. Donc on voit clairement que notre verset est dit sur l'ensemble des paroles de la Torah. Et par conséquent, c'est vraiment une objection à Ramban. Et tout de même, c'est lui-même sur. Il objecte à lui-même. Mais là, il aurait dû objecter avec notre verset, le même verset est une objection. Alors, si on y regarde vraiment dans l'origine du texte en question, on verra quelle est vraiment la kavana, quelle est vraiment l'intention du texte à cet endroit-là. Le pasouk dit comme ça. V'chol ha'am roim et ha'kolot v'et ha'lapidim v'et kol ha'shofar v'et ha'ar Hashem. Tout le peuple voit, les torches, le son du shofar et la montagne qui est entièrement prise dans de la fumée. Espèce de son et lumière et fumée, etc. qu'il y avait au Sinaï, quand Hachem a donné la Torah. Vayar ha'am, vayanu, vayamdu merachok. Le peuple a vu tout ça, ils ont été remués en quelque sorte, et ils se sont tenus à distance. Ils ont été effrayés, parce qu'ils voyaient, ils se sont tenus à distance. Alors Moshe a dit au peuple, Altiraou, ne craignez rien. Qu'il va vous, ma sotetrem, ba Elohim. C'est pas du tout, c'est simplement une épreuve qu'Hachem vous pose ici. Va vous, tiei rato al pnechem. Hachem veut que la crainte d'Hachem quasiment s'inscrive sur vos visages. Le viltit afin que vous ne fautiez pas. Et dans une braïta, on apprend Yirato al-Fenechem. C'est quoi la crainte d'Hachem qui s'inscrit sur le visage? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors la braïta, elle dit, ça veut dire la boucha, ça veut dire la honte. Donc on voit ici, dit Rabbi Yitzhak Koutener, on voit ici deux choses. Premièrement, dans le niveau général de crainte du ciel, il y a un niveau, ça c'est la généralité, yirat Hashem, la crainte. Dans cette généralité-là, il y a un élément particulier, il y a un certain degré, évidemment. La crainte d'Hashem, comme toute chose, c'est il y a toutes sortes de degrés de crainte d'Hachem, et il y a un degré qui correspond à cette marque de la crainte d'Hachem sur le visage, que les Chachamim appellent boucha, les Chachamim appellent la honte. Donc, la honte, avoir honte, c'est une des formes, une des expressions de la crainte du ciel. Deuxièmement, quand on parle des voix, des torches, etc., que les Bnei Israël ont vu, et cette montagne qui était prise dans une espèce de fumée, c'est-à-dire toute cette manifestation physique autour du Sinaï, sont des choses qui ont eu un effet, un impact sur le clan d'Israël pour des générations. Et ça leur a donné une certaine madriga, un certain niveau, ce fameux niveau de la boucha. Et en fait, le texte dit, tout ce cinéma-là, il est uniquement là pour que vous atteigniez ce niveau de crainte du ciel qui s'appelle Boucha. C'est ça que Yitzhak veut essayer de comprendre. De quoi il s'agit? C'est quoi cette boucha? Cette crainte, cette honte, pardon. Alors voilà, il commence comme ça. Il ramène un texte de Pirkei Avot que vous connaissez qui dit Ben Sarah Ma'amarot Nivra Haolam, le monde a été créé par 10 paroles, c'est-à-dire dans Maaseh Bereshit. Il y a, en vérité, c'est seulement 9 fois, mais bon, disons, il y a comme 10 fois le mot Vayomer, Hachem a parlé, c'est-à-dire un mamar d'Hachem. Il a dit que ce qu'il a parlé de la lumière, il a parlé des luminaires, il a parlé des végétaux, etc. Alors là, et le texte de Pirkei Avot, vous vous souvenez, il dit, mais ve'alor be'mamar echad yapol li'barot. Pourquoi est-ce qu'Hachem avait besoin de 10 paroles pour créer le monde? Il aurait pu le faire avec une seule parole. Pourquoi 10 paroles? Et la réponse standard, on la connaît bien. La réponse, c'est Liten sachar tov la tzadikim, shemekayimim et haolam, shenivra, ve'asara ma'amarot. C'est pour donner un plus grand salaire aux tzadikim qui font que le, qui font tenir le monde, ce monde qui a été créé avec 10 paroles. Quelque part, c'est comme si il prenait en compte 10 paroles, il soutenait 10 paroles d'Hachem. Si on n'avait qu'une seule, il en a soutenu une seule. Donc c'est pour leur donner plus de mérite, si on peut. Cette Mishnah, dit-il, elle n'est pas très facile à comprendre. Le Maharal, déjà, il pose la question. Quelle est la différence entre quelqu'un qui vole 1 euro, quelqu'un qui vole 10 euros? Le vol est plus grand. Le vol, c'est du vol. Sauf, cette différence, elle est dans le quantitatif et pas du tout dans le qualitatif. Donc, c'est pas vraiment fondamental. Donc, c'est une question du Maharal. Et le Maharal répond, c'est vrai qu'il n'y a pas de différence entre celui qui vole un euro et celui qui en vole 10. Mais, en fait, il y a quand même une différence, par exemple, entre celui qui vole 1 euro et celui qui vole la couronne du roi. Donc, tous les deux, c'est du vol, mais on comprend bien que il y a une différence quand même entre les deux. Le Maharal, ici, veut dire que puisque le monde a été créé avec 10 paroles, alors, quelque part, celui qui respecte pas ça, c'est comme s'il volait la couronne du roi. Et donc, c'est pas la même chose que de détruire ou de ne pas, ou à l'inverse, soutenir un monde qui était créé par une parole ou bien par 10 paroles. C'est une différence entre un et la couronne du roi. C'est ce que le Maharal dit, en tout cas. Alors, bien qu'effectivement, c'est pas tellement évident. Et bon, néanmoins, après ce qu'on, une lecture standard, quoi. Si on veut expliquer un autre niveau de l'on parle ici, ce Maharal et ce texte, en fait, c'est de dire que ce qui s'est passé de nouveau au moment du matin de Torah, c'est pas que on est passé de 7 mitzvot de Bnei Noach à 613 mitzvot. Parce que c'est pas vraiment important, 7 ou 613. Si on essaie d'y regarder d'un peu plus près, alors il vient à l'esprit la réponse, en fait, des Chachamim. Ils disent, Lecha Hashem Atiferet, Zu Matan Torah. On dit, à toi revient la Tiferet, la splendeur, Hashem. Alors il y a une dracha qui dit, c'est quoi? Ze Matan Torah. C'est le don de la Torah. Donc ça, on voit ici, que le chidouche, la spécificité de Matan Torah par rapport au service d'Hachem, qui contient les 7 mitzvot des Bnei Noach aussi, ce qu'il y a eu de nouveau au moment de Matan Torah, s'appelle Tiferet, s'appelle splendeur. Et donc, je propose, dit-il, de l'interpréter de la manière suivante. Je l'ai expliqué ailleurs, dit-il, que quand les Chachamim m'ont dit que, vous savez, il y a ce texte des Tehillim dans lequel il y a 26 fois qu'il est Olam Hazdo. Ils disent que c'est 26 fois qui le Olam Hasdo, car son chesed est éternel. Ça correspond aux 26 générations qu'il y a entre la création du monde, entre Adam, si vous voulez, et Moshe Rabbeinu, la génération qui a reçu la Torah. Donc, c'est les 26 générations qui n'ont pas reçu la Torah, qui ont vécu sans référence à la Torah. Hein? Générations qui ont vécu sans avoir reçu la Torah. Et là, on a dit, sur toutes ces générations, on dit qui le Olam Hasdo. Ça veut dire ils le savaient, ils ont vécu avec du chesed, avec un chesed éternel. Alors quoi, ça veut dire qu'à partir du moment où Hachem a donné la Torah, il n'y a plus de chesed? On n'a plus ce même précède, soit. C'est un peu compliqué. Comment comprendre que Kileolam Prazo s'est dit sur les générations qui n'ont pas la Torah, et donc et on ne dit pas Kileolam Prazo sur les autres générations. Comme si le don de la Torah, c'était moins de précède.
Ou l'équivalent.
Ou bien, en soi, c'est pas dit, il n'y a pas de texte qui le l'impasse d'eau qui est dit sur les générations d'après. La Kavana, elle, sûr, est évidemment autre. Elle veut dire que ce chesed qu'il y avait avant Matan Torah, c'est un chesed que lui, il appelle Chesed Shel Vitour. Alors, pour qu'on comprenne ça, Vitour, ça veut dire, le Vater, ça veut dire on laisse passer. Alors, on peut dire comme ça, Reuven, ou A, si vous préférez, Reuven peut nourrir Shimon de deux manières. Ou bien il lui donne ce dont il a besoin quotidiennement. Tous les jours, il lui donne, a besoin 100 euros pour la journée, voilà, 100 euros. Ou alors, il peut, c'est comme, ça a été repris par un certain petit livre rouge, qui était très en vogue pendant un certain temps, mais c'est la Gemara. Ou bien alors, il peut lui monter un job, enfin, il lui monte un magasin avec lequel, en travaillant, il aura de quoi manger tous les jours. On peut penser que de lui donner sans qu'il ait besoin de travailler 100 euros tous les jours, c'est un plus grand recette que de lui ouvrir un magasin, il faudra quand même, bien sûr, il va en vivre, mais il faudra qu'il travaille. Mais là, on sait bien, au fond, que c'est un recette plus profond de lui donner la possibilité de gagner sa vie par lui-même. D'après ça, le chesed qui a été fait aux générations qui n'ont pas la Torah, donc qui n'ont rien fait, de ne pas obéir à Hachem spécifiquement, c'est pour nous dire que jusqu'à Matan Torah, les gens n'avaient pas besoin de travailler, si on peut parler comme ça, pour avoir à manger, pour avoir ce dont ils avaient besoin. Et donc, d'après ce qu'on dit ici, le chesed des 26 générations en question, c'est ce qu'on appelle le chesed vitour, ça veut dire te donne sans rien te demander d'autre. Te demande rien. Alors qu'avec, s'il ouvre un magasin, je te donne, mais je veux que tu travailles. Et donc, après Matan Torah, justement, la Torah, elle nous et les obligations, et à ce moment-là, la générosité d'Hachem, elle est donnée, mais en retour, si on peut parler comme ça, il reçoit qu'on fait ce qu'il a demandé. C'est-à-dire que le monde tient comme... grâce au travail, donc grâce au le fait que le monde tienne, c'est un salaire pour le travail, pour la Torah en fait. Dans cette histoire que un Matan Torah, à partir de Matan Torah, plus exactement, le monde y tient sur un principe qui s'appelle Mishpat. C'est une espèce de justice, en fait, dans laquelle, voilà, c'est, tu fais le travail et tu es payé. Parce que, en fait, le Kvod Shamaim, la gloire divine, en fait, sur laquelle, cette gloire divine, c'est ce qui a été dit que HaKadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, on dit, She'akol bara lichvodo. HaKadosh Baruch Hu, tout ce qu'il a créé, il l'a créé pour sa propre gloire, en fait. Mais c'est le Kavod qui résulte de notre travail, qui consiste justement à pratiquer les mitzvot, à étudier la Torah. Et comme il n'y a pas d'autre kavod, véritable kavod que celui de la Torah, alors Kabbalat HaTorah, le fait de recevoir la Torah, c'est une espèce de condition qui a été posée dans Maaseh Bereshit, dans l'œuvre du commencement, dont on a déjà parlé, Yom HaShishi. Moshe m'a dit, si les Bnei Israël acceptent la Torah, le monde que j'ai créé est un monde qui va durer. Si les Bnei Israël n'acceptent pas la Torah, alors je ramène le monde au chaos. C'est ce qu'Hachem a dit. C'est pour ça que c'est marqué, HaShishi, c'est-à-dire il y a création du monde sous condition que les Bnei Israël acceptent la Torah. Donc ça veut dire, du coup maintenant le monde vit selon le Mishpat, selon la justice, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a à la fois Akol bara lichvodo, Hachem a créé tout ce qu'il a créé pour sa gloire, et il n'y a d'autre kavod que la Torah.
Ah,
Oui.
une question. Vous avez dit que Hachem a dit si vous acceptez, ça continue, sinon je détruis le monde. Mais ils n'ont pas eu le loisir de refuser puisque ça a été accepté sous contrainte.
Alors on considère justement que les Bnei Israël ont accepté partiellement, à savoir ils ont accepté Torah chez Birtav, et l'autre, effectivement, c'était tellement fondamental que Hachem les a contraints à accepter. Alors, bon, finalement, ils ont accepté, sous la contrainte, mais ils ont accepté. On avait besoin de cette acceptation, même extorquée en quelque sorte, pour que le monde, ça veut dire que le monde ne pouvait pas vivre sans qu'il y ait acceptation de la Torah, c'est-à-dire sans que les gens pratiquent la Torah, parce que c'est le seul moyen de donner le kavod dont
Oui.
Hachem a dit que
Mais du
c'est
coup,
grâce à ça que le monde a été
quelle est la
créé.
valeur, enfin, la valeur,
Oui, on peut discuter de la valeur
la
de.
menace, en fait.
Alors, ce qu'on a dit justement, c'est que la Gemara, elle dit, c'est Moda Rabba l'Oraita, c'est-à-dire qu'en réalité, les Bnei Israël auraient très bien pu dire à Hachem, quand Hachem leur a fait des reproches sur le fait qu'ils n'ont pas respecté la Torah, quand Hachem a détruit le Beth-Amigdash, les Bnei Israël auraient protesté et dire, c'est pas normal. On n'a jamais accepté volontairement la Torah. Donc, pourquoi tu nous tiens à rigueur de cela et tu détruis le Beth-Amigdash à cause de ça, non? Et les Bnei Israël n'ont jamais utilisé, c'est-à-dire c'est vrai qu'ils ont accepté sous la contrainte, mais ils se sont conduits ensuite sans utiliser l'argument contrainte. Et après, ils l'ont vraiment accepté sans contrainte. Et donc, il y a une espèce de bon, on peut encore discuter, est-ce que vraiment les conditions étaient satisfaites? La vérité, c'est que des conditions satisfaites sous la contrainte, c'est aussi satisfait. C'est pas complètement satisfaisant, peut-être, mais c'est satisfait. Les conditions étaient satisfaites. C'est fait.
Mais ça dit aussi que la menace n'était pas tellement prise en compte.
Ben, ils ont
Puisque
quand
la
même dit
famille.
oui, sous la contrainte. Et après, finalement, on a l'impression que ils n'ont pas utilisé l'argument. Ils avaient un joker. Ils l'ont pas utilisé. Ils se sont laissés sanctionner par Hachem, de façon terrible, quoi, galoute et tout ce que vous voulez, alors que théoriquement, ils pouvaient dire non. Ou on doit pas nous sanctionner. On a accepté sous la contrainte. C'est un peu ça, c'est-à-dire. Donc on arrive ici à ce ridouche. Il fait que le don de la Torah au sens général du terme est la Avodat Hashem en réalité. Bien que tout ça, ce soit. C'est dans un cadre de contrainte. Malgré tout, il y a quand même du Kavod Shamaï. Concrètement, on voit les choses se font comme Hachem a voulu qu'elles se fassent. Finalement, ça veut dire que tout le travail des tzadikim durant toutes les générations. Alors, les tzadikim qui étaient dans les générations d'avant Matan Torah, c'était un travail, une avoda, qui a augmenté le kavod du ciel, en fait. Parce que dans ces 26 générations, il y a des gens qui sont bien conduits. Bon, dans les 26 générations, il y a Abraham, Yitzhak et Yaakov. Eux, ils sont dans une période où la Torah n'a pas été donnée. Ils sont dans les 26 générations. La 26e génération, c'est celle de Moshe Rabbeinu. Donc, tout ce qui est en amont. Et donc, il y a les tzadikim. Ces tzadikim, le travail qu'ils ont fait, il produit du kavod d'Hachem. Néanmoins, hein, c'est pas le kavod de Hakol Bara Lichvodo. C'est-à-dire, ce kavod-là n'est pas encore le kavod dont on a parlé à Maaseh Bereshit. Oh. Et donc, il y a encore une nécessité de 26 fois le Kile Olam Chasdo qu'il y a dans le, ce texte qu'on appelle Alel Agadol. Qui, Hashamayim Vaharetz Adayim Tluyim Veomdim Ad Yom HaShishi Shehu Shishi Besivan. Parce que le ciel et la terre sont encore en suspens. Est-ce qu'ils vont rester comme ils sont? Puisque Hashem, on n'est pas encore arrivé au Sinaï. On n'est pas arrivé au Sivan. C'est vrai que, depuis toujours, on raconte les cieux racontent la gloire divine, dit David HaMelech. Mais à partir de Matan Torah, les choses ont pris un nouveau visage. Jusqu'à Matan Torah, le sipour, le récit en quelque sorte, c'était bon, c'est voilà, il y a une réalité qui est là. Voilà, c'était comme ça. Et après, Matan Torah, le sipour, le récit, il est que quand les cieux racontent justement la gloire divine, en fait, parce que du coup, ils sont faits pour cela, après Matan Torah, si on prend, si on enlève aux cieux, en fait, le récit de la gloire divine, quelque part, enfin, ils vont retomber au chaos, dans le chaos. Le monde entier, l'idée c'est le ciel, le monde entier a pris une nouvelle dimension. Ils racontent, ils deviennent, tout devient au service de la gloire divine, alors qu'avant, la situation était comme ça. Voilà, je beaucoup vous a protégé, vous a donné ci, vous a donné ça, etc. Ça correspond à la réalité. C'était comme ça, mais il manque, si on veut, quelque chose de dynamique du récit qui est ce qui est donné par l'action des hommes, par le fait qu'ils agissent selon la Torah. En fait, il faut encore comprendre quelque chose de particulier qui a à voir avec la langue elle-même, avec le Lashon HaKodesh lui-même. Dans toutes les langues, la notion de beauté et la notion de splendeur différente, ça a des racines différentes. En Lashon HaKodesh, la racine de PR, Tiferet, elle existe, elle, c'est aussi la racine de la beauté, en fait. Donc, c'est une racine à la commune, en fait, à la fois à la beauté et à la splendeur. Pourquoi? Parce que la beauté n'est que une expression de différentes. C'est une façon de dire comment la beauté agit sur celui qui la reçoit, en quelque sorte. La beauté, dit-il, isgula shel metziat chen be'enei azulat. C'est un moyen de trouver grâce aux yeux de l'autre. C'est-à-dire, La beauté, elle met celui qui l'apprécie, celui qui la reçoit, cette beauté, elle le met dans un état favorable, positif par rapport au sujet qui a cette beauté. La beauté, elle transforme en quelque sorte celui qui la reçoit. Kolama Prinat le'atzmo legabe ma'alat ha'yofi asher prinata hi le'zulata. C'est-à-dire, toutes les qualités, elles existent pour elles-mêmes. Alors que la beauté, elle est pour l'autre, en fait. C'est comme ça qu'il le présente. Et c'est ça le point commun, en quelque sorte, entre la beauté et la splendeur, entre le Yofi et la Tiferet. Kol inyana shel la Tiferet sert à éveiller chez l'autre une joie, une dites pas l'autre, une impression, il est impressionné. Et cette impression-là, le fait d'être impressionné plutôt, on ne peut pas la produire par quelque chose qui existe que pour soi. Il faut quelque chose qui soit essentiellement dirigé vers l'extérieur. Dafka l'idée Sgulata Yofi shel Maala, c'est-à-dire à l'idée Kocha Limtsochen Be'en Azulat, même si l'homme avait la totalité des qualités, Im Ha'Maalot Halalu Enam Motzot Chen Be'en Acherim, si ces qualités elles ne trouvent pas grâce aux yeux des autres gens, Elo Be'Maaleh Itpa'er. Alors, il n'a pas de raison de rayonner en quelque sorte, hein, puisque ça n'intéresse personne. Et justement, ce mélange qui existe entre la Tiferet et la beauté, il a une racine qui s'appelle Pe'er, parce que cette racine, elle veut dire à la fois la splendeur et à la fois le Tiferet. Je veux dire, bon, je le crois sur parole. Si je suis pas, j'ai pas cette sensibilité dans la langue pour entendre ce qu'il dit là, moi je ne connais pas tellement de langues pour savoir si ce qu'il dit est vrai, que partout ailleurs, splendeur et la beauté sont des racines complètement différentes, je sais pas. Pas commencer en russe, commencer en arabe, je sais pas. Bon, il le dit comme ça. Je le prends comme ça pour l'instant. C'est ce que nos maîtres ont voulu nous enseigner, que le Tiferet, comme le Chazal l'ont dit, Tiferet, Zé Matan Torah. Imani Omer al-Khidush, Yadua, Zéhu Géoné, si quand j'entends un Khidush de quelqu'un, je dis que c'est génial de génial. Ça ne veut pas dire que le chidouche en question, il a été dit afin de dévoiler la génialité de celui qui l'a produit. Par contre, quand je dis que ce chidouche, il a été dit pour, si je dis qu'un chidouche a été dit pour dévoiler la génialité de celui qui l'a produit, à ce moment-là, Amida, Sheba, Nehemar, Chidushze ou Atiferet. Ça veut dire, dans ce cas-là, si vraiment il a été produit pour révéler la génialité de celui qui l'a produit, alors c'est de l'ordre de la, c'est ça Atiferet. Mais Kevan, She'ad Matan Torah, Aya, Sipur, Asher HaShamayim, Mesaprim, Vodkel, Parce que jusqu'à maintenant, Torah, quand on dit que les cieux, quand David Hamelach dit le ciel raconte la gloire divine, c'est un fait. Il y a un fait qui est les cieux, donc la perfection du cosmos, la perfection de l'immensément grand, etc. Ça raconte la gloire divine, mais ça, voilà, c'est comme ça. Mais ça ne dit pas que ce récit-là, il est la raison d'être du ciel. C'est-à-dire, le ciel n'est pas là pour raconter la perfection. Il est parfait. Il y a une perfection dans l'infiniment grand. Comment ça fait que ces galaxies fonctionnent, etc. Tout ça, c'est extraordinaire, fabuleux. Mais le ciel, il n'a pas été créé pour raconter. Il raconte, mais il n'est pas créé pour ça. Après Matan Torah, à ce moment-là, il se trouve dévoilé et le Sipur HaKavod Hazeh ou Atnai B'Maaseh Bereshit V'Kvod Shamayim ou Ha'Esek Asher Bo HaOlam Mistaker Parnasato V'Asher Alken התחלפה המידה של חסד ויתור לחסד משפט, מפני שהכל ברא לכבודו, ואין כבוד אל התורה, ועל ידי הכבוד של קבלת התורה, העולם מתקיים במשפט. כי אז נתבררה תכונת התפארת של כל הבריאה כולה, כמו תודי, לך השם התפארת, זה מתן תורה, וישראל אשר בעבודת תורתם הם מצמיחים את הכבוד הזה, עליהם הכתוב אומר, ישראל אשר בך את פאר. Toi ישראל, grâce auquel je את פאר, ça veut dire j'ai de la tiferet, dit Hachem. Quelque part, je suis reconnu comme, reconnais ma beauté, ma bonté, etc. Grâce à Israël. Parce qu'à partir de Matan Torah, puisque c'était ça la condition que les Bnei Israël acceptent la Torah, du coup maintenant, tout le monde prend un autre sens, puisque le monde il est là maintenant pour raconter Hachem, et du coup, s'il ne racontait pas, ça veut dire, si les Bnei Israël n'avaient pas accepté la Torah, alors le ciel, il n'a pas de raison d'être. Vraiment, bon, il n'a pas de raison d'être, donc il retourne au chaos. Et donc, nous, on doit savoir que toute cette histoire de kavod, le kavod qui est la raison pour laquelle Hachem a créé le monde, en fait. Ça vient de ce que, dans le monde, il y a toutes sortes de niveaux dans le monde. Il y a donc des madrigotes, des niveaux, les unes plus élevées, etc. La madriga la plus basse, elle doit se tourner vers le haut, regarder vers le haut, pour voir celle qui est plus haute qu'elle. Et cette élévation des yeux, en quelque sorte, pour regarder vers le haut, c'est ça qu'on appelle kavod. La source de toutes ces différences de niveau, dans le monde. Ça vient de ce que, dans l'émergence des mondes, en fait, les mondes qui, ici, il utilise, sans le dire, mais il utilise justement les fameux quatre mondes, en fait, la Hatzilut, le monde de la Hatzilut, de l'émanation, ensuite le monde de la Bria, le monde de la Yetzira, de la formation, et enfin le monde de la Asiya, qui est le monde dans lequel on est. Donc, comme il y a effectivement des mondes qui, alors, ça vient d'Hachem, donc ça a commencé par la Hatzilut, et ça devient de plus en plus concret, de plus en plus matériel, si on peut parler comme ça, au fur et à mesure qu'on avance, jusqu'à être le monde matériel dans lequel nous sommes. Et donc, tout ça, les différents niveaux qui existent viennent de ce qu'il y a différents mondes, effectivement. C'est-à-dire la structure différenciée, elle vient de ce que le monde a été créé de façon différenciée, si on peut parler comme ça. Maintenant, tout ça, ce travail-là, des différents mondes, tout ça, ça s'est fait avec les fameuses 10 paroles par lesquelles HaKadosh Baroukh Hou a créé le monde. Et Asara Ma'amarot de Maaseh Bereshit. Chaque ma'amar, chaque parole correspond à un degré, à une madriga bien précise. Le niveau qu'on appelle Yehi Or, par exemple, Hachem a dit Yehi Or, qu'il y ait de la lumière. C'est pas le même niveau que la parole divine qui disait Tatché à Aretz, que la terre, effectivement, elle se couvre de gazon, enfin, ou d'herbe. Chazal dit, Istakel Beoraita ou Vara Alma. Akadosh Baroukh Hou, il a regardé dans la Torah qu'il avait créée, et en fonction de ça, il a créé le monde. Et donc, le fait que les cieux, la terre et tout ce qu'ils contiennent ont été créés avec 10 paroles et pas avec une seule, c'est ce qui crée chez nous le sentiment qu'il y a effectivement une hiérarchie des créations, des créatures. Et à notre échelle, c'est ça l'explication de ce que le Maharal a dit, que la différence qu'il y a, ben Racha Baolam, Anivra be'mamad echad, ben arasha be'olam anivra be'asara ma'amarot. Quand le Maharal avait dit, il y a une différence entre celui qui vole dans un monde où il y a une création, un monde créé avec une seule parole, ou celui qui vole dans un monde créé avec 10 paroles, il avait dit, c'est la même différence qu'entre celui qui vole 1 euro et celui qui vole la couronne du roi. Pourquoi? Parce que, afalpi, shegam be'olam hanivra be'mamar echad yeshna efsharut shel avera al ratzon Hashem. Bien entendu, si le monde avait été créé avec une seule parole, on aurait pu aussi désobéir à la parole d'Hashem. Donc, c'est pas parce que le monde a été créé par plusieurs paroles qu'on peut désobéir. Désobéir, c'était toujours possible. Mais ça aurait été toujours possible même si le monde n'avait été créé qu'avec une seule parole. Et malgré tout, il n'y aurait pas eu cette dimension de révolte contre la gloire divine s'il n'y avait eu qu'une une parole. Donc ça veut dire qu'en réalité, ce qu'il n'y a pas cette dimension, cette possibilité de révolte, c'est qu'il n'y a pas vraiment le lien de kavod. Le kavod, dit le Maharal, enfin, presque dit comme ça, le kavod, il est la résultante du fait que le monde a été créé par une parole. Parce que si tu enlèves au monde sa structure avec madrigaux différentes, Réatan notel mitocho be'echer et argasha ve'inyan achashivut kolika. S'il n'y a plus de, il n'y a pas d'hierarchie, alors tu enlèves la notion de ça c'est plus important, ça c'est moins important, puisqu'il n'y a pas d'hierarchie. Ubvadai shebli argashat chashivut el makom le kavod. Si on n'a pas de, on n'a pas de ressenti de d'importance, le plus important, le moins important, il n'y a pas de kavod. Quel kavod tu vas donner? Donner du poids, c'est dans un monde où il y a des poids. Il y a des poids différents, mais si tout a, il n'y a qu'un seul poids, c'est pas de kavod. Donc d'après le Maharal, c'est ça le pshat dans la Mishnah. Il dit que le monde a été créé avec Asara Ma'amarot. Kedel li'ipara min ha'kshayim she'me'abdim bet ha'olam she'nivra be'asara ma'amarot, pour punir les rechaïm qui détruisent un monde qui a été créé par 10 paroles. C'est-à-dire, puisque la survie du monde dépend d'Afka, de cette notion de kavod, comme on a vu. J'ai ma créé le monde pour le kavod. S'il n'y a pas de kavod, il n'y a pas de raison de créer le monde. J'ai akol bara l'ichbodo. Comme Hachem dit, tout ça, je l'ai créé pour moi, pour mon kavod. Aré shirakali deze, shaolam livra ba asara ma marot. Donc c'est bien uniquement du fait que le monde a été créé avec 10 paroles, que donc il y a une notion de kavod dans le monde. Alors à ce moment-là, le rachat, le méchant, le mauvais, qui en fait touche à la couronne du roi, comme on avait dit, bien entendu, il détruit un monde dont la survie dépend justement de ce fameux principe de kavod, alors que si le monde avait été créé avec une seule parole, ce rachat l'aurait, il aurait simplement eu, il est comme quelqu'un qui a volé un euro, quoi. Il a volé un euro, point barre. Mais il n'a pas volé la couronne du roi. Parce que la couronne du roi, elle dépend justement de l'existence de niveau. Pourquoi il y aurait une couronne ici? Après tout ce qu'on a vu ici, on apprend que le contenu intérieur du niveau Mamad Har Sinai, du niveau Moment Sinai, c'est que avec la Torah qui nous a été donnée au Sinai, en nous donnant à écouter, à entendre les 10 paroles, c'est aussi pas les 10 paroles d'appellation, mais les 10, la Sefirot HaDibrot, on nous a donné en même temps le kavod de la Torah, grâce à tout ce qu'il y avait autour, tout le bruit qu'il y avait autour. Et donc, la volonté d'Hachem, qui s'est dévoilée à ce moment-là, et dont le fait qu'il nous a dit « Anochi, c'est moi », il se présente en quelque sorte. Alors, il y a eu aussi un dévoilement du kavod, par le fait que on a vu hein, Raoult et Hachemia, ils ont vu ce que les ondes sonores, en quelque sorte, ils ont vu les ondes sonores, les colottes. Et de même manière que voir les ondes sonores, voir ce qui s'entend, et entendre ce qui se voit, c'est tout ça, ça s'est manifesté en même temps au moment du Matin de Torah. Donc, de la même manière, pour toutes les générations qui viennent après, le sujet d'Avod, et le sujet de Torah vont ensemble. C'est dans la même braise de feu, quelque part, si on parlait comme ça. Il n'y a de kavod que par la Torah. Donc le Ha Hashem a Tiferet. Tiferet, c'est vraiment le matin de Torah. Donc, ce que le Maharal a voulu, enfin ce que Yitzhak Kuttner ici voulait montrer, il voulait nous expliquer justement que le fait d'avoir créé le monde avec 10 paroles, ça a introduit la notion de Kavod, et qu'on retrouve cette notion de Kavod dans l'existence des 10 paroles des Aseret HaDibrot du Sinaï. Au Sinaï, il s'est refait ce qui s'était fait un matin de Torah, sauf que les paroles de la création, c'est des paroles qui ont produit cette création, c'est vrai, mais elles étaient subordonnées à l'acceptation des paroles de Aseret HaDibrot, de celles du Sinaï. C'est l'acceptation de la Torah. Donc, si on veut, c'est une notion de. On a changé de style de kavod. On a changé donc le style du chesed d'Hachem, donc qui permet de reconnaître le kavod, enfin, qui permet de donner à Hachem tout son kavod. Ce qu'on a passé de ce fameux recette 8 tours, ce recette qui est simplement, je te donne tous les jours ce dont tu as besoin. Maintenant, ça c'était avant Matan Torah. Et par contre, maintenant, après Matan Torah, on est dans le type du recette, qui est le recette Mishpat, recette qui est, disons, plutôt justifié. Et donc le kavod, du coup, c'est un autre type de kavod. Vraiment le type de kavod qui vient de la structure du monde, en fait. Que c'est avec les 10 paroles qui sont, d'une certaine façon, c'est plus, je pourrais dire comme ça, c'est plus 10 que les Asara Mamarot. Et Sarah Mamorot, c'est bien un 10, mais c'est un 10 qui est moins évident que le 10 des 10 paroles. C'est-à-dire, c'est une structure. Les 10 paroles, elles structurent plus que ne structuraient les 10 paroles de Maaseh Bereshit. Les 10 paroles de Matan Torah, elles structurent beaucoup plus, et donc, elles permettent un autre type de kavod de se développer. Que le kavod qu'on pouvait avoir dans la version seulement d'un Saramah. Et du coup, c'est aussi très important parce que les Saramah ne s'adressent pas aux hommes. Ça s'adresse à personne. C'est un état fait. Hachem a parlé et la lumière a été. Tandis que la Saramah s'adresse à nous. Les 10 paroles du Sinaï, ça s'adresse aux hommes. Donc, quelque part, ça fait jouer un rôle aux hommes. C'est-à-dire que c'est eux qui sont en charge maintenant de donner son kavod à Hachem. Alors que le kavod qui était donnable, qu'on pouvait donner avec un samamamarot, c'est pas vraiment un kavod des hommes. C'est-à-dire, c'est une réalité. Alors, il y avait des hommes dans l'affaire, dans les 26 générations. C'est plutôt une réalité plutôt que quelque chose qui est la résultante d'un dialogue où Hachem aurait confié quelque chose aux hommes qu'il n'a pas. Et donc, quelque part, c'est comme s'il avait mis son kavod. La vote d'Hachem, désormais, il dépend de la Torah. Et donc, il dépend de la Torah étudiée par les hommes. Donc, c'est complètement différent. C'est un kavod. C'est comme si Hachem, c'est comme toujours, il se fragilise en disant, ouais, mais mon kavod, c'est pas le kavod qui m'est dû parce que j'ai fait telle et telle chose, mais le kavod, c'est le kavod que vous allez me donner. Donc, ça dépend des hommes. Donc ça, c'est un peu surprenant. Surprenant. C'est bouleversant, en vérité, de savoir que Akadosh Baruch Hou a accepté que il a créé un monde pour le Kavod, et maintenant, le Kavod, il a délégué les hommes, dit, voilà, alors c'est vous qui vous occupez de donner le Kavod que pour lequel j'ai créé le monde, en fait. Alors, quand dans le Passouk, il est dit, le bavour tiyé irato al pnechem zoua, quand Moshe Rabbeinu dit au Bnei Israël, tout ça, c'est tout ce cinéma-là, tout ça, c'est fait uniquement pour que vous le craigniez et que cette crainte se manifeste chez vous sous forme de boucha, sous forme de honte. A priori, boucha, c'est la honte. Alors il dit, Shamanu mikan ki madrigat yirat shamayim aklalit, le niveau yirat shamayim, crainte du ciel, en général, dans ce niveau-là, en général, Yeshna Darga Pratit, il y a un niveau spécifique de Yirat Shamaim qui se manifeste sur le visage. Et dans le langage des Chachamim, ça s'appelle Boucha, ça s'appelle honte. Pour essayer de comprendre c'est quoi le contenu de ce niveau-là de Yirat Shamayim. Il dit, Yesh la'akdim, ma sheshaninu, il faut dire d'abord un enseignement de Chazal qui disent, Amalbin pnei chavero berabim, que celui qui fait blêmir quelqu'un en public, Keilu shofer damim, c'est comme s'il versait du sang, c'est comme s'il l'a tué. Alors, le comme si, comme toujours, il faut essayer de comprendre c'est quoi le comme si en général, et comme le si en particulier ici. Alors, Tosfot, d'un côté, et Rabbeinu Yona, donc c'est un français, un espagnol, Yona, c'est de Gérone, hein. Pour eux, ils disent que ça s'appelle Avizrayu de Shifut Damim. Avizrayu de quelque chose, ça veut dire, c'est la banlieue. C'est-à-dire, c'est pas la faute elle-même, c'est pas qu'ils sont des assassins, c'est pas un assassin, mais c'est le voisinage de l'assassinat. Il faut dire, c'est quelque chose qui joue avec la notion d'assassinat. Ça, c'est Tosfot et Rabbeinu Yonah. Donc, d'après eux, Ou Be'yareg Va'yavor. Parce que les choses qui touchent au meurtre, alors ça on applique la règle qui est que si on te dit tue ou on va te tuer, tu dois te laisser tuer. Parce que personne ne dit que ton sang, toi, il est plus rouge que l'autre. Tu dois te laisser tuer plutôt que de tuer. Donc, si ça touche à Shfikhout Damim, alors on est dans les choses extrêmement graves pour lesquelles, en théorie, on devrait plutôt se laisser tuer que de pratiquer ça. Donc, c'est extrêmement grave que de faire blêmir quelqu'un. Dans la Gemara, c'est marqué que la raison pour laquelle, la démonstration, la preuve que c'est tellement grave, c'est-à-dire que faire blêmir, c'est une forme de verser le sang, c'est parce qu'on voit bien que la personne, elle passe du rouge au blanc. Blêmir, ça veut dire faire blanchir. De là, on apprend une chose assez remarquable. Yesh evdel ben rivaron shel bizayon ve shel tsar. Il y a une différence entre la honte qu'on fait à quelqu'un et qui le fait blêmir, et puis le fait que quelqu'un blêmisse par la douleur. Il a mal et il blêmit. Et puis il y a celui qui blêmit parce qu'on lui a fait honte. Et de Chazal, on voit que c'est différent. Parce que c'est sûr que si quelqu'un blêmit parce qu'il a mal, même si quelqu'un lui a fait mal, a priori, c'est pas ça qu'on appelle c'est pas ça qu'on appelle comme ces gens-là ne sont pas considérés comme des assassins. Parce que effectivement, le visage, il peut blêmir aussi par la douleur. Mais personne n'a jamais pensé que quelqu'un qui vous marchez sur le pied de quelqu'un, ça lui fait très mal et il va blêmir. On va pas vous dire qu'on était comme un assassin. Alors, en fait, obligé de dire que bien que à ce qu'on voit extérieurement, les deux c'est blêmir, ça fait blêmir, les deux. Néanmoins, il y a un abîme de différence entre les deux, entre ce que ça veut dire. C'est quoi cette différence? En Lashon HaKodesh, on a deux mots pour dire perdre la vie, en quelque sorte. Il y a Hariga et Retzichat. Hariga, Oreg et Rotser. Donc, la Hariga, c'est enlever la vie à un Baal Haï. C'est enlever la vie à un être vivant. C'est lui enlever la vie. Et le deuxième, c'est obligatoirement enlever la vie à un homme. Ça, c'est clair. Et en fait, il y a encore une troisième expression qui s'appelle Shfichat Damim, c'est-à-dire verser le sang. Normalement, ce verser le sang, ça devrait s'appliquer à l'un comme à l'autre. Verser le sang de l'animal, verser le sang humain, verser le sang. Néanmoins, on sait que c'est pas comme ça. Et que Shfichut Damim, ça fait référence au sang humain. C'est versé du sang humain. Et ça, il faudra aussi le clarifier. Pourquoi cette expression, elle s'applique d'Afka aux humains? Et pourquoi est-ce que, finalement, on verse aussi le sang animal? Donc, il ramène toujours un Maharal là-dessus. Le Maharal, il fait remarquer qu'il existe plusieurs façons d'assassiner quelqu'un, tuer quelqu'un, sans verser son sang. On peut tuer sans verser une goutte de sang. Alors pourquoi est-ce que le Vatsikha, c'est-à-dire tuer quelqu'un, tuer un homme, pourquoi ça peut s'appeler Shfichut Damim? Si on l'étrangle, et pas lui, on n'a versé aucun sang, et pourtant ça s'appelle Shfichut Damim. Le Maharal dit que il y en a chez Shfichut Damim ou à Avdala un nefesh minagouf. Le mot Shfichut Damim, c'est-à-dire verser le sang, c'est un mot qui veut dire séparer le nefesh du corps, séparer l'âme du corps. Comme on dit qu'un dam ou un nefesh, c'est très bien que le sang, dans le pasouk, dans les psukim, c'est marqué explicitement, l'adam ou un nefesh. Alors, on peut comprendre ici que shfichut damim, c'est shfichut un nefesh, c'est-à-dire se verser l'âme en dehors, la déverser, la faire sortir du corps. Nous, on ne sait pas vraiment quel est le lien entre le corps et l'âme. C'est pas. Mais le pasouk dit que le dam, le sang, c'est le nefesh. C'est machma que le lien entre le nefesh et le corps, puisque le sang il appartient au corps, et tu dis que le nefesh c'est le sang. Donc voilà, c'est le lien entre les deux, en tout cas, c'est le sang. Et du coup, le Maharal amène la Gemara dans Gittin, qui raconte que, au moment de la destruction du deuxième Beth Amikdash, Titus, il a planté son épée dans le parochet, dans le rideau qui sépare le Kodesh du Kodesh à Kodashim. C'est un rideau qui était en vérité imbibé de sang parce que Yom Kippour, tout le monde compte, achat, achat, ve'achat, etc. Toutes les aspersions de sang, c'était en direction de ce rideau. Le rideau, il absorbait des générations, des années et des années de sang. Et il y a eu du sang qui a coulé. Il a planté là. Il y a du sang qui a coulé. Alors, on veut dire ici que. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que puisque la sainteté du rideau en question a été profanée, ici, cette raison, Yeshkan Lachon chez Yetzi Adam. On peut appeler ça. Même s'il n'y a absolument rien, c'est une façon de parler, de dire que le sang est ça. C'est comme ça s'appelle Yetziat Dam. C'est-à-dire, quand tu enlèves la tsoura min ha-chomer, c'est shfichut damim. Si on enlève la forme de la matière, bon, ça s'appelle shfichut damim. Puisque le nefesh, c'est la forme par rapport au corps et à la matière. Le kolartira, Afalpi chez le Maasé Enan Shvikhut Damim, donc toute mise à mort d'un être humain, même si concrètement il n'y a pas de sang qui coule, et ça s'appelle Shvikhut Damim, ça c'est ce que dit, ce que nous enseigne le Maharal. On va s'arrêter là. On sait que c'est un peu.